Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. A tout de suite.
Invino BFM, Alain Marty sur BFM Business.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le numéro 619 d'Invino BFM. Notre émission est en public et délocalisée. Nous sommes au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, avec un menu qui prêche la consommation modérée et responsable. On parlera du vignoble du Beaujolais, de l'appellation Bergerac, avec Thierry Vessière, le chef du restaurant de la Maison d'Amérique latine, les coups de cœur, les trois coups de cœur de Marc Esquéret de Gomillo, le concept chef-d'œuvre version héritage, et également on reviendra sur les fêtes populaires ou païennes liées au vin avec David. Et comme chaque semaine, on parlera de l'actualité mondiale des vins et spiritueux avec un très joli plateau. Manuel Perrondet, Marc Esquéret, David Cobold et Philippe Forbach. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour. Bonjour.
Marc, dans l'agenda du vin, on commence par Reims, une belle ville.
Le prochain dîner du Wine and Business Club Reims aura lieu le mardi 15 novembre dans les salons du domaine Les Crayères. Au menu, économie, gastronomie et grand cru. Plus d'informations sur winebusinessclub.com.
On quitte Reims pour le Languedoc.
Après une édition estivale réussie, le Languedoc donne rendez-vous aux amateurs pour découvrir une belle palette de ses vins accompagnés de produits régionaux. Les estivales d'hiver de Saporta, c'est le rendez-vous pour déguster des vins de l'appellation Languedoc. Le jeudi 17 novembre, puis le 15 décembre 2016, la Maison des vins de Saporta à Lattes, ça se trouve au sud de Montpellier, accueillera les épicuriens de 19h à 23h.
Ça s'appelle un coup de latte.
Bon, très, très bonne intervention de David. Au programme...
Ça, c'est de la valeur ajoutée dans l'émission.
Deux appellations ou dénominations mises à l'honneur chaque soir, découverte du meilleur des vins de l'appellation Languedoc et de ses terroirs, le tout dans une ambiance festive et musicale pour des soirées ponctuées par de jolis instants de dégustation. 5 euros par personne, information sur coteau-languedoc.com.
Alors on revient à Paris à bord de la péniche Maxims.
Invitation à une escapade gourmande et atypique au pied de la Tour Eiffel à bord de la péniche Le Maxims pour l'événement Saveurs et Vins sur Seine 2016 durant le week-end du 18 au 20 novembre. Venez déguster mes et vins en présence d'une vingtaine de producteurs passionnés venus de toute la France. Entrée libre et gratuite. Pour plus d'informations, saveurs-et-vins-tout-attaché.com.
Et enfin, la Bourgogne.
La 10e dégustation thématique de la maison Bouchard Aîné et Fils aura lieu à Beaune, capitale des vins de Bourgogne. Au programme de ce voyage sur le thème « Les vins de Bourgogne sur la route des épices », la dégustation de 7 vins, dont un crémant de Bourgogne, de vieux millésimes, un vin sur fût et 4 accords mets et vins. Rendez-vous le samedi 19 et le dimanche 20 novembre pour vivre une expérience sensorielle et gustative.
Oh oui.
Réservation en ligne et renseignements sur bouchard-aîné, donc sans accent, .fr.
Et Bouchard, c'est un D. Merci Marc Esquéret. Philippe Forbach, un commentaire sur le millésime 1974.
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de choses à dire finalement. C'est millésime.
Ça commence
un peu ingrat.
Petit en
quantité et pas franchement très grand en qualité. C'est vrai que les conditions climatiques n'étaient pas terribles. Voilà, donc on a un vin qui a jamais été vin ample, généreux, tout ça. Dans le Bordelais, c'est juste une catastrophe.
Ailleurs
en Bourgogne,
aussi.
C'est un petit peu mieux. Moi, j'ai goûté aussi dans la vallée du Rhône des rouges qui tenaient un petit peu grâce à l'acidité.
C'est-à-dire, mais l'été 74, voilà. Avait été une catastrophe. C'était froid et humide.
Exactement.
Les Bourgognes blancs, qui était une bonne nouvelle.
Un petit peu mieux dans les Bourgognes blancs. Il y a quelques vins qui ont pu tenir un petit peu. Bon, il faut dire que maintenant, ils ont pris un certain recul et que, à mon avis, il était un peu tard pour les apprécier comme on a pu les apprécier au départ. Néanmoins, oui. On peut fêter quand même ce 1974 avec Kate Moss, avec Ophélie Winter, avec Laetitia Hallyday,
ça,
avec,
des ex,
avec
ça.
Victoria Beckham, avec Penelope Cruz, avec Marie Drucker, encore Mazarine Pinjot, Fabie Flamand, etc. Et côté garçon, parce que là j'ai quand même été très loquace.
Parfait.
Côté filles, il y en a beaucoup. Mais Sébastien Loeb, par exemple. Qui tient la route encore. Cyril Hanouna, qui tient l'antenne très souvent, et Leonardo DiCaprio, qui tient le monde de temps en temps, entre ses mains. Ouais,
vous avez Patrick Abadie ou pas dans votre liste de Titanic?
Exactement, c'est le seul qui n'a pas coulé.
Exactement, c'est notre premier invité, Patrick Abadie, autant fort aujourd'hui. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Alors vous êtes le patron de Delville, un groupe, on va parler un peu de votre parcours. Vous êtes diplômé en arts et métiers, doublé d'un master de finance à l'ESSEC, et votre premier job, c'était dans une filiale totale où vous vendez de la peinture?
Et quasiment, hein, j'avais rejoint cette filiale, c'était en 2000, juste après mes études. Et cette première expérience, c'était plutôt du contrôle de gestion. En fait, j'avais rejoint Total pour aller faire de l'international. Et là, on se retrouve à Rueil-Malmaison. Rueil 2000.
C'est exotique. Hein.
C'était à peu près 2 km de la maison. Donc, on en a décidé autrement. Et puis, moi, j'avais rejoint ce beau groupe, pour faire de ce qu'on appelait de l'intrapreneuriat. Donc, entreprendre, mais à l'intérieur d'un groupe. Et puis, finalement, j'ai rencontré un entrepreneur que j'ai rejoint.
2001, qu'est-ce qui s'est passé en 2001, alors ?
En 2001, j'ai rejoint une société qui s'appelle Investance et que nous avons participé à développer de 2001 à 2007.
En 2007, vous avez créé votre boîte, hein, c'est
exactement.
Ça ?
Exactement. Et 2007, fort du petit réseau que je m'étais forgé, j'ai créé Delville.
Alors, l'origine du nom, pourquoi Delville ?
Delville, c'est une jolie histoire. C'est le nom de jeune fille de ma grand-mère, en fait. Mon arrière-grand-père, belge d'origine, hein, wallon, est arrivé en France et a eu deux filles. Et donc, le nom, évidemment, c'est un petit peu perdu. Et donc, on a souhaité faire...
Delville Group, quoi. Donc, c'est appelé Gertrude, ça aurait été Gertrude Group.
Quoi. Gertrude Group, le seul bémol à cela... non, mais belle remarque, Alain, belle remarque. Le seul bémol, c'est qu'on avait un cahier des charges. Et le cahier des charges, c'est que le nom soit joli et qu'il soit... international et prononçable en anglais.
Alors, Patrick, votre premier métier...
Gertrude. Ça, c'est dit très bien. Gertrude.
Ouais. Mais Delville...
C'est pas très sexy, mais Gertrude, ça fonctionne.
Mais Delville Management, ça passe très, très bien en anglais.
Votre premier métier en 2007, donc vous étiez dans la chasse de tête, c'est ça ?
Oui, on a commencé dans le conseil en recrutement par approche directe, hein, effectivement, de 2007 à 2010. Et puis, il ne t'a pas échappé, cher Alain, qu'il y a eu 2-3 crises... Hein, dans ces
quelques
années-là.
Petits changements, quoi.
Voilà. Et donc en 2010,
c'était donc du changement. Et aujourd'hui, donc vous êtes basé à la fois à Paris et également à Londres, et vous êtes dans l'intérim management, c'est ça ?
Exactement. On est dans ce qu'on appelle le management de transition. Le management de transition, c'est le fait d'impliquer un manager expérimenté, hein, un manager de haut niveau, chez nos clients, mais pendant une durée limitée dans le temps, 6 mois. Alors ça, c'est un peu théorique. Hein. La pratique, c'est il y a quelques mois, un dirigeant d'une société de e-commerce m'appelle et me dit les e-commerçants, il y a un truc qu'ils savent bien faire, c'est développer le commerce et développer leur business. Il y a une chose qu'ils savent un petit peu moins bien faire, c'est de structurer leur back-office, la partie administrative, financière et surtout logistique. La logistique dans le e-commerce, c'est énorme parce que vous êtes une femme, vous commandez 3 paires de chaussures ou de 3 tailles différentes pour être sûr.
Ou un homme, parce qu'un homme est capable de commander 3 paires de chaussures.
Ou un homme, ça peut être 4 ou 5.
De 3 tailles différentes.
Ah, peut-être pas.
Ça peut être même plus. Et donc, vous gardez la paire de chaussures qui vous convient bien. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous renvoyez les paires de chaussures qui ne vous conviennent pas. Vous imaginez derrière les remboursements, la logistique. Il faut tenir compte. Là, évidemment, il y avait une équipe en place, il y avait des managers en place, mais les managers étaient trop légers parce qu'ils ont connu ce développement d'activité qui a été phénoménal. Donc ils ont fait appel à Delville, avec un D comme Delville.
Oui, comme Gertrude, avec un D.
Avec un G. Et donc nous les avons accompagnés avec un manager de transition de très haut niveau, mais surtout qui vient d'une autre industrie, qui vient de l'industrie automobile, qui est l'industrie la plus mature.
Et combien de temps
il est
resté à peu près ?
Il est resté 6 mois dans cette mission, le temps qu'on recrute, déjà d'apporter les process de structure, apporter de la maturité, hein, c'est comme dans le vin ça. Et puis ça a permis derrière de... prendre le temps de recruter la bonne personne.
Que vous avez fait, vous, ou c'est eux qui l'ont fait, le recrutement ?
Non, c'est eux qui l'ont fait, sur ce recrutement. Alors, ça aurait pu être...
Dites-nous, Patrick, intérim manager, c'est un vrai métier ou c'est une étape dans sa vie ?
Non, les deux. Il y a des managers de transition qui ne souhaitent faire que des missions de transition. Le manager de transition, il a 25 ans d'expérience, c'est quelqu'un minimum. Hein. C'est quelqu'un qui a vécu dans des groupes internationaux. Moi, il y a plein de managers de transition qui me disent « Les galons, je les ai eus. » Les bonus associés au galon, je les ai eus. Aujourd'hui, j'ai touché à cette liberté que donne une mission de management de transition, de pouvoir s'affranchir des données un peu politiques, hein, des uns et des autres qu'on retrouve dans les entreprises. Et donc, une fois qu'on a goûté à ça, c'est compliqué de faire machine arrière.
De redevenir salarié normal. Et la vision anglo-saxonne du job, c'est pareil, il résonne comme nous, pour une fois ?
En Angleterre, effectivement, le marché est beaucoup plus développé en Angleterre, hein, puisque c'est quasiment eux qui l'ont inventé, hein, finalement. Hein. Donc voilà. Et d'ailleurs, on est présents, nous, en Angleterre.
Vous avez une filiale.
Le savez-vous ?
Vous avez une filiale. Que je dis en préambule, hein, Paris et Londres.
Eh ouais, on est 15 personnes, une très bonne équipe que je remercie, parce que sans cette équipe, eh ben, on ne ferait rien du tout. Ouais. Et une superbe équipe qui est effectivement basée entre Paris et l'Angleterre.
Il y a certains jobs, certains postes qui sont difficiles à sourcer, c'est-à-dire que vous avez du mal parfois sur certains métiers précis ?
Oui, il y a des missions qui peuvent être plus compliquées en fait à staffer en termes de timing. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour arriver à trouver un directeur financier ou un directeur des ressources humaines, il nous faut en gros 72 heures.
Donc là, il y a une offre, on peut trouver des compétences.
Vous m'appelez aujourd'hui pour faire démarrer un directeur financier lundi prochain. Ça va très vite. Il faut à peine une semaine.
Ils sont tous au chômage.
Non, ils sont pas au chômage. Ils sortent d'une mission, ouais. Ils retrouvent une autre mission.
Il y a un flux de compétences.
Et ils sont disponibles.
C'est pour ça que je me suis toujours méfié des bean counters.
Alors, cher Patrick, je sais que vous écoutez chaque week-end Invino BFM à Paris sur 96.4. Côté vin, c'est votre grand-père qui a investi dans le vin, dans le Languedoc, en 1962. Racontez-nous.
Oui, le nom Abadie est un petit peu originaire de là-bas, hein, le berceau familial et même Limouxin, au sud de Carcassonne, hein, quelques vingtaines de kilomètres, là, enfin même 25 kilomètres. Et donc, dans ce berceau familial, Audouin, mon grand-père, installé là-bas, a acheté une petite demeure depuis un peu agrandie, avec quelques hectares de vin. Alors le vin, moi j'ai le souvenir...
De vin d'abord, oui.
Devine. Et j'ai le souvenir de ma grand-mère qui coupait le vin avec de l'eau.
Eh ben oui. Hein,
moitié vin, c'était moitié bien. Eau. Moi, j'ai toujours vu ça.
Comme les anciens Grecs.
Voilà. Et déjà, à l'époque, on le buvait...
Les civilisés, quoi.
On le buvait avec modération, puisque je me souviens, à l'âge de 3 ou 4 ans, mon grand-père nous faire ce qu'on appelait une chinchole. Une chinchole, c'est une salade de pêche, abricots, de fruits, etc. Des arbres fruitiers qui étaient à 10 mètres de la maison. Là-dessus, on met un peu de sucre. Et... une gouttelette de vin rouge. Et c'est vrai que quand vous avez 3-4 ans, et ben ça vous permet vraiment de découvrir
Marc
le fruit.
Le patron de Gomillot au niveau de la...
Moi, je mets des grosses gouttes avec les fruits. Et à chaque fois, ça vous permet de bien dormir après. Les fruits rouges, notamment.
Surtout quand vous avez 3-4 ans. Quoi.
Patrick, vous avez donc effectué les vendanges déjà ?
Eh ben, en fait, ce domaine, nous, on le fait en partenariat avec une CAF coopérative localement et on vendange à la machine.
À la machine.
Ouais, depuis ce, je vous ai pas parlé de l'appellation, excusez-moi, mais
Languedoc.
On est en appellation Languedoc, mais surtout en AOP, qui est les côtes de la Malpère.
Malpère.
Voilà, on est en côte de la Malpère, qui est une petite appellation, mais qui a la spécificité d'être la plus à l'ouest des appellations du Languedoc-Roussillon. Et donc, on a cette double influence du côté de la mer, de l'océan, hein, par les vents de Bordeaux et notamment le Cerse, hein, qui nous arrive, hein, j'espère ne pas dire, ou la Tramontane, je ne sais plus, qui nous arrive de Bordeaux.
La Tramontane, c'est de l'autre côté.
Ah voilà, et le vent de la mer. Et donc on a cette double influence, et puis les cépages ont été depuis arrachés, replantés, on est en cépage plutôt bordelais là-bas.
Hein, bordelais, quoi. Voilà. Et pour terminer, côté cuisine, il paraît que vous êtes le champion du monde de la ballotine de pintade au mori sauce foie gras.
Bah écoutez, j'ai même reçu des amis très très récemment avec cette petite recette.
Et ils ne sont pas morts.
Que j'aime bien. Et ils ne sont pas morts. Et ils apprécient une petite ballotine de pintade.
Alors comment vous la préparez ? Vous trouvez une ballotine, une pintade, comment ça marche alors ?
Alors déjà, on appelle le boucher pour avoir de la pintade. Après, il tape sur la pintade pour étaler la pintade. Il faut faire ça entre deux feuilles de cellophane. Si
Marc Esquire, vous pouvez noter sa recette. Après, vous allez pouvoir la commenter.
Et à la fin, il y a quelqu'un qui amène une ballotine de pintade.
Et à l'intérieur, 2-3 échalotes avec 2-3 morceaux de morille. Hein, et vous mettez ce petit mélange au milieu de la pintade et là, un petit carré de foie gras pour donner du moelleux. On entoure tout ça, on plonge ça dans la cellophane et dans 20 minutes d'eau chaude, on ressort, on coupe en trois, on présente joliment une petite sauce au foie gras et un risotto à la truffe à côté. Ça, c'est si on a les moyens, c'est bon.
Marc Esquire, c'est vous le chef, hein. Qu'est-ce que vous en pensez ?
C'est comme ça qu'on fait le foie gras aujourd'hui. Hein. Le foie gras le plus couramment et pour bien le préparer, on le met dans la cellophane et... Bon, pour le foie gras, c'est 8 minutes. La pintade, il faut un petit peu plus, mais c'est une très bonne recette.
C'est une très bonne recette. Philippe Forbach avec cette fameuse pintade préparée par Patrick Abadie himself.
Mais dans le coin de vos origines, là-bas, les limous rouges, par exemple, sur des pinots noirs, sont pas mal faits. Le Malpère ou le voisin Cabardès sur des vins, effectivement, de double influence, avec Merlot, Cabernet, mais aussi Syrah et Grenache, vont pas mal. Mais avec le côté foie gras, la générosité, tout ça, le Collioure qu'on évoque autour de la table.
Très bien, excellent choix.
C'est aussi un très joli choix.
Merci. Merci Patrick. Patrick Abadie, le président de Delville Group, une ville BFM, toujours en public et délocalisée chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine, accueille un nouvel invité, Jean Bourjat, qui est le directeur général délégué d'Interbrugelé. Bonjour Jean.
Bonjour Alain, bonjour.
Alors,
à tous.
Là nous sommes le week-end du 11-12 novembre. Qu'est-ce qui se passe le 17 novembre dans votre tête, dans votre corps?
J'allais justement vous poser la question. Il y a un événement très important.
Beaujolais nouveau.
On boit du gamay.
Dans moins d'une semaine.
Dans moins d'une semaine. Vous êtes formidable. Bravo, vous avez bien répondu à la question d'Alain. Et justement, ça sera encore une fois une grande fête internationale avec de nombreuses manifestations partout en France aussi. Et n'en déplaise aux esprits grincheux, les Beaujolais nouveaux, je dis les parce qu'il y en a autant que de vignerons, ont encore de beaux jours devant eux. En effet, si vous vous souvenez tous, l'an dernier, quelques jours, la sortie des Beaujolais nouveaux s'est passée quelques jours après, malheureusement, ces terribles attentats que nous avons connus à Paris. Et comme on le sait, eh bien, il y a eu une chute de la consommation des vins dans la restauration partout en France. Mais malgré ça, eh bien, la vente de vins primeurs en Beaujolais était en hausse l'an dernier. Donc, on était les premiers surpris.
C'est merci les Japonais ?
Non, c'était en fait la hausse, elle était en France.
Ah oui.
Voilà, donc les autres circuits de distribution ont compensé ce que nous avons perdu dans la restauration. Et cette hausse, justement, elle est aussi due à un travail qui a été fait depuis de longues années par nos vignerons et négociants qui proposent des cuvées haut de gamme avec des vins à personnalité affirmée pour les Beaujolais et Beaujolais Village Nouveau. Alors ça va vous surprendre, disant bon, les Beaujolais nouveaux, est-ce du haut de gamme, Beaujolais Nouveau, ça peut choquer les uns et les autres. Or, c'est pas du tout le cas parce que on a de plus en plus de vignerons qui travaillent, qui font des cuvées différentes, des cuvées, je dirais, classiques, qui sont plus travaillées, avec plus de personnalité. Vous avez aussi des nouveaux natures, vous avez des nouveaux qui sont bio, et puis vous en avez qui sont un petit peu plus élaborés que les autres. Et ces cuvées plus spéciales, elles ont trouvé un marché aujourd'hui, et un marché de consommateurs qui sont prêts à acheter un peu plus cher que d'habitude. Donc c'est des tarifs qui vont être à 6, 7, 8 euros pour des Beaujolais nouveaux, des Beaujolais villages nouveaux, un peu plus travaillés. Mais après tout, on n'en achète qu'une fois par an, alors oui, pour 2-3 euros de plus, ça serait vraiment idiot de s'en priver. Alors, on parlait du gamay. Nous, aujourd'hui, on dit le gamay noir. On dit bien le pinot noir chez nos amis bourguignons. Donc, c'est le gamay noir pour le Beaujolais. Vous le savez, c'est le cépage rouge et qui s'exprime très bien sur les vins primeurs, mais aussi sur l'ensemble des 12 appellations du Beaujolais. Alors, est-ce que tout le monde autour de la table connaît les 12 appellations?
Alors, on y va. Allez, parti.
Allez, ouais, brouillez. Que déjà, brouillez. Il y a Beaujolais et Beaujolais Village.
Ah, Philippe, trop fort.
Ouais, ça fait deux.
Régnier, Chiroule, Morgon.
Il y a les crus.
On dit trois.
Ouais, ça, c'est bien.
Moulin-Vent, Chenas et Julianas.
14 février, c'est passé à quoi, 14 février?
Saint-Amour.
Ah, bravo. Quand même.
Le Brouillet, Côte de Brouillet.
Et le Régnier?
Régnier, oui, cité, voilà.
Le Fleury, que j'avais pas
cité. Et puis, le Julianas. Et quelque chose qui tourne.
On y a 12.
Moulin-Vent.
Moulin-Vent, oui. Voilà. On est bon.
On doit être bon.
Bravo, bravo, bravo à tous. Donc, la région, elle est pleine de projets passionnants. On parle beaucoup des nouveaux, puisque c'est dans quelques jours. Mais on développe de plus en plus de nouvelles actions, notamment sur l'appellation Beaujolais, avec un secteur au sud du vignoble qui s'appelle le Beaujolais des Pierres Dorées.
Ah, ça me dit quelque chose. On a entendu parler la semaine dernière.
Et oui, il me semble qu'un négociant bourguignon
a introduit un cépage bizarre.
Voilà. Ceci dit, les vignerons du Beaujolais, les négociants, travaillent depuis déjà plus de 5 ans sur un cahier des charges qui permettra à cette appellation du Beaujolais d'avoir ce qu'on appelle une mention valorisante, donc les Beaujolais des Pierres Dorées, qui sera travaillé différemment avec des cuvaisons un peu plus longues et un peu d'élevage. Et en Beaujolais Village aussi, il y a beaucoup de travail qui a été fait. Et notamment, on a un projet de développer environ 5 mentions valorisantes, donc de Beaujolais avec mention de village ou avec zone. Et là encore, avec des vins plus élaborés, avec des personnalités fortes et spécifiques à chacun. L'idée, c'est que le consommateur ne pense plus que nos appellations régionales, Beaujolais ou Beaujolais Village, sont toutes identiques, mais leur donner des vraies personnalités.
Mais Jean, c'est terrible pour nous, parce que là, la prochaine fois que vous allez venir, ce n'est pas 12 appellations qu'il va falloir citer, c'est 45. Alors, pourquoi rendre les choses si compliquées ?
C'est simplement, j'espère que je serai invité une autre fois dans l'année, ça me permettra de répondre un peu mieux à ces questions-là. Alors, je ne veux pas oublier les 10 crus du Beaujolais, on vient de parler de ce qui est fait en Beaujolais, Beaujolais Village. Donc, les 10 crus, on travaille depuis déjà pas mal d'années pour revendiquer de plus en plus ce qu'on appelle les lieux dits cadastrés. Et donc, vous allez voir de plus en plus de crus du Beaujolais dans lequel vous aurez le nom du cru et aussi le lieu dit cadastré. Alors, je donne un exemple, vous le connaissez tous, Morgon, eh bien, un lieu dit connu, Côte de Pie, qui apparaîtra clairement sur l'étiquette. L'idée, c'est de proposer de plus en plus des sélections parcellaires. On veut valoriser beaucoup plus les crus, faire beaucoup moins d'assemblage au sein des mêmes appellations. Et donc, on est très avancé là-dessus. Et l'idée, c'est de retrouver nos climats. Vous savez que le Beaujolais avait des climats, à l'instar de la Bourgogne. Ils n'ont jamais été enregistrés à l'INAO. C'est une erreur il y a plusieurs dizaines d'années. Et ce que nous espérons, c'est qu'à terme, c'est retrouver ces climats qui seront l'antichambre, éventuellement, de premiers crus en Beaujolais.
Ça va se compliquer le Beaujolais. Mais d'un côté, on va vers la qualité toujours, de plus en plus.
Ça ne va pas se compléter autant que ça, puisqu'on n'a que 12 appellations, donc ça reste très simple, deux cépages. Voilà. Et juste, très rapidement, donc l'actualité immédiate, eh bien, c'est le millésime 2015, qui est absolument fabuleux en Beaujolais. Il y a un magazine, justement, qui titrait dans son dernier numéro 2015, millésime d'anthologie. Donc les Beaujolais, Beaujolais Vierge, les crus du Beaujolais, le millésime 2015, il est astronomique.
Les gens, les prix ont augmenté un peu, la quantité était comment en 2015
La quantité était faible, on a connu ces 5 dernières années beaucoup de petits millésimes, d'ailleurs un peu comme la Bourgogne. 2016 devrait être un petit peu plus
petit
important.
Petit en termes de quantité, vous voulez dire
de quantité, mais par contre, qualitativement, à part le 2012 qui était légèrement en deçà, si on prend les 5 derniers millésimes, on a vraiment eu des millésimes de qualité, voire de très grande qualité. 2015, on le compare, nous, avec le 2009 qui était déjà reconnu par tous les spécialistes comme étant un très très grand millésime chez nous. Donc, l'idée, c'est... Et le 2015, j'ai oublié de vous le dire, ça va être un millésime de longue garde. Parce que, vous avez bien entendu, on peut garder des Beaujolais pendant longtemps. Parce qu'il faut tuer cette idée qu'ont les consommateurs qu'un Beaujolais, y compris les crus, ça doit être bu rapidement.
Dans les 3 mois.
Voilà. Et donc, ça, c'est des vins qui vont pouvoir se garder très, très, très longtemps. Je suis sûr que nos invités et puis nos chroniqueurs habituels ont peut-être quelques expériences à nous faire partager sur des vieux millésimes de Beaujolais.
C'est vrai que les crus notamment vieillissent très bien. Moi j'ai eu l'occasion fréquemment quelque part, parce qu'on en trouve encore, hein, de déguster des 49 ou des 59 de Moulavant ou de Morgon, qui morgonnent ou qui pinotent.
Et
ça, franchement, c'est très bon et ça prouve bien que le terroir du Beaujolais et que le Gamay est un grand cépage aussi.
Pour conclure, donc Jean, ça c'est super, mais il y a également l'avenir proche, c'est-à-dire dans quelques jours.
Dans quelques jours, on a les Beaujolais Village nouveaux qui seront proposés à la vente. Donc le millésime 2016 se présente très bien. On a eu la chance d'avoir un été, comme d'ailleurs à peu près partout en France, sec et chaud, et qui a rattrapé un printemps maussade dans l'ensemble du pays, avec des vins qui offrent une palette cette année très large de saveurs et qui privilégient le fruit. Je parle de raisin, bien sûr. Car, qu'on se le dise, il y a autant de Beaujolais nouveaux que de cuvées.
Et un goût de banane, tout ça, là, c'est fini, tout ça?
Le Beaujolais, il a le goût du raisin.
C'est très Merci, important. En tout cas, Jean, effectivement, une vino veritas. On va déguster avec plaisir, avec modération également. Philippe Forbrac, si nous partions, un commentaire peut-être sur
un
le...
Un petit commentaire, en disant que, finalement, c'est la fête du Gamay, cette histoire du 3e jeudi du mois de novembre.
Gamay plus Gamay, quoi.
Oui, c'est la fête du Gamay.
Au-delà du vin primeur qui est intéressant à goûter ce jour-là, moi, chaque année, dans mon restaurant, je fais une grande fête pour ce jour-là, et je fais toujours goûter des millésimes plus anciens, même vinifiés en primeur. Et même vinifiés en primeur, on s'aperçoit que la fraîcheur, l'acidité, la texture des Beaujolais tiennent la route et sont agréables à boire même 10 ans plus tard.
Vous avez mis le doigt sur ce que nous allons faire de plus en plus, c'est que le Beaujolais nouveau, on va parler des primeurs, mais on va aussi nous parler de plus en plus de tous les autres vins, exactement comme Philippe vient de nous l'expliquer.
Philippe Forbrac, qu'est-ce qui se passe du côté de Bergerac?
Il se passe qu'on y fait du vin depuis longtemps et que j'ai envie de vous en parler. Bergerac, c'est la Dordogne. Ça fait sourire déjà David parce qu'on est presque un peu chez lui. Alors, c'est vrai que c'était le cas, hein, puisque quand Henri II Plantagenet a épousé Alidor d'Aquitaine en 1152, l'Aquitaine est devenue anglaise.
Bah, Gasquiré était témoin d'ailleurs de ce passage.
J'ai démarré la guerre de 100 ans là-dessus.
Exactement. Donc c'est vrai que c'est une région qui a toujours bénéficié, notamment de cette époque, d'un marché considérable vers le royaume d'Angleterre. Et il y a même Henri III, qui fut, comme tous les rois d'Angleterre à cette époque, aussi duc d'Aquitaine, qui s'est mis de côté les gens de Bergerac par rapport aux gens de Bordeaux, parce que ça faisait loin quand même. Hein. C'était
étaient en marge un petit peu de l'Aquitaine. Ils leur proposaient non plus de vendre leur vin par Bordeaux, mais d'ouvrir le port de Libourne pour que les vins de la région de Bergerac effectivement puissent se vendre plus facilement.
Et il y a toujours un vol direct Londres-Bergerac.
Ça, ils ont gardé des affinités historiques. Alors, bien sûr, quand la guerre, après la bataille de Castillon en 1453, s'est arrêtée...
Terrible souvenir. Mais quel crétin cet Albo, quel nul.
Désolé de le rappeler. Nos amis anglais qui nous écoutent à Londres sur Internet, notamment.
Bien sûr, www.fmbusiness.com. Bon,
et donc, qu'est-ce qui s'est passé après? Bien, du coup, les gens de Bordeaux qui avaient repris un peu la main sur l'affaire Aquitaine, on en voulu un peu aux gens de Bergerac qui avaient joué plutôt avec les Anglais vers Libourne, et ont fermé. Donc il y a le fameux privilège des vins de Bordeaux qui a perduré assez longtemps. Et c'est jusqu'à François Ier, donc à la Renaissance, qu'on a pu un peu libérer quelque part la commercialisation des vins de cette région. Alors il a resté quand même une situation un petit peu particulière, parce qu'ils ont vécu sur place, un peu isolés par rapport au Bordelais. Ils ont vécu en direct vers l'Angleterre sans passer par le Bordelais. Et quelque part, quand les appellations d'origine contrôlée Bordelais se sont créées, les Bordelais ont dit il n'y aura de Bordeaux qu'en Aquitaine. Et surtout qu'en Gironde, pardon. Et le reste de l'Aquitaine, débrouillez-vous comme vous pouvez. Et c'est ce qui s'est passé pour les vins d'Ordogne, qui se sont enregistrés sous la bannière Bergerac, quand même une ville célèbre pour plein de raisons, y compris littéraires, mais aussi pour l'identité de ces vins. Alors, on a quelques crus qui ont eu une identité propre, un terroir particulier. Je pense par exemple à Pécharmant et ses rouges célèbres, à Rosette et ses moelleux délicats, au Mont Basillac et ses vins liquoreux qui sont soi-disant même antérieurs. Parce qu'on dit que ce sont des moines de Bergerac qui, quelque part, ont inventé la pourriture d'homme, en tout cas inventé cette mise au point, dit-on.
Ça, c'est légende.
Oui, c'est
non, mais tout le monde sait que c'est Dom Pérignon.
Mais c'est cela, oui. Le Saussignac, le Mont-Ravel, le Haut-Mont-Ravel, ou encore les Côtes de Mont-Ravel. Mais sous la bannière Bergerac, quand on lit Bergerac sur l'étiquette, il faut quand même la décrypter un peu. Parce qu'il y a 5 appellations qui peuvent revendiquer l'appellation Bergerac. D'abord, le Bergerac sec. Quand c'est marqué Bergerac sec sur l'étiquette, on a affaire à un vin blanc qui est élaboré à partir de Sémillon, de Sauvignon, de Muscadelle, mais également d'Ondenc et de Chenin blanc. On se demande ce que vient faire le Chenin blanc dans la région, mais il donne de jolis résultats sur
il est allé
fraîcheur.
Plus loin. Hein. Il est allé
exactement,
plus loin.
Plus au sud encore, exactement. Et ce sont des vins qui sont souvent gras, ronds, avec malgré tout de belles acidités, et qui sont merveilleux sur des poissons, des crustacés, enfin, sont vraiment des jolis vins d'un bon rapport qualité-prix. Le Bergerac rosé également, alors c'est pas juste la tendance, ça existe depuis assez longtemps.
Ils sont il est rosé, rosé partir... ou il est éclairé?
Alors il est rosé plutôt de temps en temps plus éclairé. On trouve le Merlot, le Cabernet Franc, le Cabernet Sauvignon. Ce sont plutôt des rosés de repas plutôt que des rosés d'apéritif. Et enfin, dans la série des Bergerac, le Bergerac rouge, qui est élaboré lui à partir des cépages traditionnels du sud-ouest et du Bordelais en particulier, le Cabernet Sauvignon et le Cabernet Franc pour la texture, le Merlot noir, on a précisé tout à l'heure le Gamay noir comme le Pinot noir, là c'est le Merlot noir parce qu'il existe du Merlot effectivement blanc aussi, et qui donne plutôt de la suavité, le Côte qu'on appelle également le Malbec qui fait les beaux jours de Cahors mais qui donne beaucoup de fruité à ces vins de Bergerac. Ce sont des vins qui sont très marqués par des notes de fruits rouges, souvent épicées, parfois élevés en fût, pas nécessairement toujours le cas, mais qui sont des vins plutôt accessibles et relativement gourmands, même s'ils accompagnent agréablement les magrets locaux.
Les vignerons,
pour terminer
alors,
rapidement,
les vignerons.
Deux autres appellations, le Côte de Bergerac rouge, des vins un peu plus puissants et structurés, c'est une sorte de Bordeaux supérieur de la région, ou le Côte de Bergerac blanc, qui est essentiellement du moelleux. Quelques vignerons méritants, le domaine de l'ancienne cure, le domaine de Pic, Seigue, le château La Tour des Jantes, le domaine de Joberti ou encore la maison Julien de Savignac.
Et là, vous dites au niveau du prix.
On est sur les Bergerac secs, oui. Pardon
5 à 15.
Oui, pour les Bergerac secs et les Bergerac tout simples, 5. Et puis pour les Côtes de Bergerac dans des cuvées spéciales, autour de 15 à 20 euros.
Merci beaucoup, Philippe Arbrac. Nous marquons une pause pour les infos et ensuite retour au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine. Pour le Vino Quiz, j'ai rencontré le chef Thierry Vessière, le chef du restaurant de la Maison de la Mecque Latine.
Invino BFM, Alain Marty sur BFM Business.
Invino BFM, le retour, nous sommes en public et délocalisés toujours au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine avec le Vino Quiz et Emmanuel Perrandé.
Alain, je vous rappelle le principe, chaque semaine nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide des vins du Wine and Business Club. Alors la semaine dernière la question était, qu'est-ce que la clape? La réponse A, un poisson d'eau douce. Réponse B, un coup donné avec le plat de la main. Réponse, c'est une appellation des coteaux du Languedoc.
Et on a enlevé la quatrième option que j'ai suggérée, qui est une maladie honteuse en anglais.
Ça aurait pu être ça, voilà. La bonne réponse était bien sûr la réponse C, une appellation.
B, la réponse C, pardon, C,
ouais,
bien sûr.
C'est, ouais, des coteaux du Languedoc, voilà.
Alors, cette semaine.
Alors, aujourd'hui, une nouvelle question. Quels sont les cépages des Beaujolais blancs et rouges? Alors, réponse A, Sauvignon et Gamay. Réponse B, Chardonnay et Gamay. Réponse C, Sauvignon et Pinot Noir. Pour répondre et gagner un exemplaire du guide des vins du Wine & Business Club, vous pouvez envoyer dès maintenant votre réponse à l'adresse mail invino@vinojeux.com. Le gagnant sera tiré au sort parmi les bonnes réponses.
Merci Manu. Vous connaissez la maison de la Méclatide à Paris ?
Un petit peu, j'ai fait quelques événements là-bas.
Et bien voilà, on accueille le chef Thierry Vessière qui est aux commandes des fourneaux de cette belle maison. Bonjour Thierry, tout va bien ?
Bonjour, oui, très bien.
Alors, merci. À quel âge vous avez commencé à vous dire, tiens, un jour, je vais être cuistot ?
Ben assez tard en fait, j'avais je pense plus de 20 ans.
Vos parents étaient déjà de la partie si je puis
non,
dire
non, du tout, mon père était agriculteur dans le sud en face de la Clap. Et moi je me dirigeais plus vers de la sommellerie. Et en fait j'ai rencontré un compagnon du Tour de France qui m'a dit j'aimerais que tu me suives. J'aimerais t'apprendre la cuisine et c'est comme ça que je suis parti.
D'accord, alors parmi les différentes étapes professionnelles, il y a eu pas mal de lieux, d'endroits ou de personnages. Le restaurant Célier Morel, ça vous évoque quoi?
Oui, c'était mon apprentissage en bac professionnel à Montpellier. Très belle ville, très bel endroit, très beau restaurant où j'ai beaucoup appris.
Le Cercle National des Armées.
Ça c'était en tant qu'appelé, service militaire. Ben, disons que ça m'a permis de venir à Paris et de mettre un pied dans la capitale puisque j'arrivais de province. Et là j'ai pu m'essayer à toutes les maisons et à tout type d'extra, et c'est là où j'ai pu découvrir ma voie, en fait. Et
puis la rigueur, quoi. Marc Esquiré, un petit commentaire sur la cuisine des Bidas.
Sur la cuisine des Bidas, je ne m'avancerai pas, mais Thierry Vessière, il a fait plein de bonnes maisons, donc je pense qu'on peut faire confiance dans le parc.
Thierry, vous avez également travaillé aux côtés d'un grand monsieur qui adore le vin, Alain Sandrin. Ça.
Oui, c'est à côté, en face. Oui, c'était ma première expérience professionnelle en tant que commis. C'est une grosse claque quand on arrive comme ça un petit peu, qu'on sort de l'armée. Mais c'est.
Là, c'est dans le quartier, entre le service de l'armée et Sandrin.
Mais c'est une école de la vie avec j'ai beaucoup appris. Ça m'a permis aussi d'ouvrir mon esprit sur la cuisine, ce qui manque aussi à certains chefs.
Philippe Orbach, Alain Sandrin.
Oui, Alain Sandrin, c'est juste le chef qui a marqué son histoire autour des accords Mézévin. C'est un des rares chefs 3 étoiles qui, à l'époque, mettait sur le menu le vin qui accompagnait le plat qu'il proposait, avec de vrais tests en plus.
Oui. Pas juste on met ça. C'était pas marketing, c'était vraiment.
Il y a vraiment des. J'ai eu la chance, moi, d'élaborer avec lui quelques menus, et notamment le fameux menu du 31 décembre 99 au château de Chantilly qu'on a travaillé ensemble. Quand on a trouvé la recette, j'ai le petit salon en face de moi, de l'autre côté de la place ici, puisque nous sommes effectivement place de la Madeleine. Quand on a trouvé la recette qui allait bien avec le fameux Romain des Conti 71, c'est vrai qu'on fait pleurer un peu quand on raconte ça, mais on a pleuré.
Tu en métier,
on s'est mis à pleurer dans mes bras sur une pastillade.
Ah non, on pleure parce qu'on n'a pas été invité.
Aux épices douces, qui allait juste d'une façon juste évidente.
David Cobol.
Est-ce qu'on souffre beaucoup? Est-ce que c'est très dur quand on est commis dans un grand restaurant?
Après ça dépend, chacun ressent les choses. C'est vrai que pour une personne un petit peu qui veut s'aventurer, ça reste assez très dur. Il faut comprendre un petit peu la philosophie qu'un chef veut nous inculquer, qu'une brigade veut nous inculquer, parce que c'est pas le chef forcément le plus dur, c'est tout ce qui est autour en fait. C'est la brigade entière.
Donc, c'est intéressant d'ailleurs que le terme brigade, c'est aussi un terme militaire.
Oui, c'est vrai, c'est assez structuré. Bon, après il faut rentrer dans le pas un petit peu intellectuel, mais une fois qu'on a franchi ce cap, c'est beaucoup de plaisir en fait. C'est un peu maso de dire ça, mais c'est un peu beaucoup de plaisir.
Marc, qu'est-ce qu'il y a? Il y a beaucoup de maso en cuisine?
Je pense que surtout les efforts qu'on doit faire pour arriver au sommet de la hiérarchie, ouais, ça, demande quand même une grande abnégation.
Vous avez également, Thierry Vessière, côtoyé Yannick Alello?
Oui, au Drouan.
Belle aventure aussi?
Ben oui, c'était... je sortais du Lucas Carton et donc Yannick était l'assistant de Monsieur Grondard, et c'est vrai qu'on a travaillé côte à côte pendant un an. C'était très sympa et on a beaucoup appris. Enfin, moi j'ai beaucoup appris surtout.
Un petit restaurant de quartier après la Tour d'Argent.
Oui, après la Tour d'Argent, c'était 98 je crois. Ils venaient de perdre la troisième et on essayait de partir à la reconquête. Ils essayent encore, je crois, actuellement. Mais
Marc Esquiré, la Tour d'Argent, comment vous le notez, vous notez
la Tour d'Argent, depuis l'arrivée de Philippe Labbé, on a plein d'espoir. Donc vous allez découvrir ça dans le prochain guide Goemi.
Ah, très bien. D'accord, on ne trahit pas de secret. Quoi. Et côté international, Thierry, vous avez passé quand même 18 mois à Las Vegas. Vous avez perdu combien?
J'ai tout gagné. Non, j'ai rien perdu. Non, j'étais parti pour faire l'ouverture du Paris-Las Vegas en 99. Donc c'est vrai que pour moi, j'ai préféré quitter la Tour d'Argent à cette époque-là parce que il y avait quelque chose qui faisait rêver. Puis en plus, en 99 à Las Vegas, il n'y avait pas de Français déjà à l'époque.
Ah d'accord. Bah, maintenant, ils y sont tous.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc je suis parti là-bas. C'est une opportunité, une chance, une rencontre humaine. Et puis surtout, justement, on parlait de rigueur. C'était une autre vision dans la cuisine au niveau management et structurel. Et ça m'a beaucoup aidé par la suite.
Vous avez également ouvert deux restaurants au Maroc,
oui.
D'où votre temps allait.
Oui, à Fès et à Casablanca.
Mais les aventures, c'est quoi ? Il y en avait un au Sofitel, non ?
Le Sofitel, on l'a inauguré. Avec Gilles Pélisson à l'époque.
Ah, Gilles Pélisson, oui, grand monsieur qu'on salue. Oui. Et depuis 2014, donc, c'est un nouveau challenge, la Maison d'Amérique latine. Donc vous êtes situé où à Paris ?
On est au 217 boulevard Saint-Germain.
Donc dans les beaux quartiers. Bon, il y a pire dans la vie, quoi. Il y a très peu de Rottweiler et bon. Et donc, alors, vous avez quoi ? Il y a dans le lieu, il y a un restaurant, il y a un jardin, il y a des salons, et puis il y a vous.
Il y a une belle maison, surtout. Il y a une grande maison. C'est deux hôtels particuliers avec un restaurant, effectivement, un bistrot, un bar, et des salons. C'est des repas assis, c'est des cocktails dînatoires. Il y a, c'est 19 salons en enfilade.
Et l'ambition, c'est quoi ? C'est d'être super bien noté chez Marc Esquiré,
s'il veut venir, il n'y a pas de problème. Mais non, déjà, moi j'estime que pour un chef, il n'y a rien de plus triste, c'est de parader avec un restaurant vide. Moi, j'essaie déjà de le remplir et puis après...
Oui, déjà quoi. Votre style de cuisine, comment on peut la qualifier ou la définir, Thierry ?
Bon, c'est une cuisine, j'ai envie de dire, c'est rien d'extraordinaire au goût du jour. Ce que j'aime beaucoup, c'est le regard extérieur qu'on peut avoir avec différentes choses, soit en regard d'enfant, soit en regard de professionnel. C'est une cuisine de rencontre et de voyage aussi. C'est un peu mon parcours et où j'essaye... d'amener quelque chose qui va bien à la maison, en fait. Ouais.
Quelques plats signatures, si quand on passe du côté du boulevard Saint-Germain, on doit être côté 7e d'ailleurs, là.
Oui.
Quelques plats signatures.
Alors, ces signatures, on a revisité, bon, ça a l'air extraordinaire, parce qu'aujourd'hui, c'est un petit peu la tendance. On a essayé de revisiter le ceviche d'Amérique latine, mais on a voulu donner quand même quelque chose de très 7e. On travaille les agneaux confits de 7 heures. Ça, on le faisait à la Tour d'Argent, mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est les cacaos. Travailler avec du cacao. Oui. Bon, c'est classique aussi, mais on essaye de
restituer
les acides et les amertumes. Pareil sur les desserts, on travaille de très beaux cacao. Et bon, après, je fais une cuisine aussi ouverte sur le sud, parce que c'est un petit peu mes racines. Donc, les émulsions d'oursin, les Saint-Jacques. Enfin, les Saint-Jacques ne sont pas du sud.
Oui, c'est ça, je dis qu'il y a, les huiles de Bouzigues.
Non.
Au sud de Paris.
On travaille avec des saveurs méditerranéennes et du bassin méditerranéen en général et j'essaye de travailler avec des beaux produits.
De revisiter ça, quoi. Ouais. Alors, pour terminer, on parle un petit peu de sous. Combien ça coûte chez vous ? C'est-à-dire que le ticket moyen pour déjeuner, dîner, avec ou sans sourire ?
Déjeuner, on a moins de 50 euros.
Moins de 50 euros,
Côté vin, l'Amérique latine, il y a des vins d'Amérique latine ou il y a d'autres choses ?
Il y en a un petit peu, mais ce qu'il faut faire attention, c'est la maison de l'Amérique latine. La maison de l'Amérique latine a été créée pas pour promouvoir la cuisine et ni les vins d'Amérique latine, mais pour promouvoir le savoir-faire français.
Merci beaucoup, donc Thierry Vessière, qu'on peut trouver donc tous les jours au restaurant. C'est quelle adresse déjà ?
217 boulevard Saint-Germain et nous sommes ouverts désormais, maintenant c'est tout nouveau, le soir.
Oui. Et apéro offert pour les auditeurs d'Invino BFM, n'est-ce pas ?
Oui, ah,
c'est vous qui payez.
Champagne pour tout le monde.
Invino BFM, on trouve Marc Esquiré, le rédacteur en chef de Gomillo, avec ses trois bonnes adresses. Alors on verra si elles sont bonnes, il y en a trois en tout cas. Hein. On commence à Paris ? On reste à Paris plutôt.
Allez, on reste à Paris. Alors j'ai donc trois adresses. Alors je vous emmène de temps en temps dans des petits bistrots. Là, on va plutôt envoyer du lourd quand même. Bon. Parce que, bon, ben voilà, de temps en temps, il faut aussi se faire plaisir. Donc je vous emmène à l'Archest. L'Archest ou l'Archest, je crois qu'on dit l'Archest. On dit Archestrat, mais on dit Archest. C'est 79 rue de la Tour. Il y avait là une petite cantine sicilienne il y a quelques années qui marchait bien, qui s'appelait Megusto. Et c'est devenu donc un restaurant de cuisine française fait par un japonais. Je vous en parle assez souvent parce que les chefs japonais se sont éparpillés. Celui-là, il est dans la ligne classique parce qu'il sort de chez Hiramatsu. Hiramatsu, pour rappeler, et c'était un grand admirateur de la cuisine française, grand admirateur de Paul Bocuse. Et le chef de Hiramatsu, donc, qui s'appelle Yoshiaki Ito.
Ah, oh bah oui, ça s'invente pas,
oui.
Ça.
Ouais. Il a donc monté ce restaurant qui est ouvert depuis maintenant un mois. Il fait une cuisine française de très haute tenue, vraiment très belle qualité, pas archaïque du tout, hein, mais plutôt quand même dans la lignée traditionnelle, risotto, girolles, foie gras par exemple. Vous voyez,
pour ceux que ça peut surprendre, moi j'ai le meilleur pied paquet de ma vie, je les ai mangés à Tokyo.
Oui, bien sûr. Voilà. Et la meilleure tourte au gibier était chez Stella Maris, tout à côté de l'étoile. Mmh. Inégalable. Et bien justement, allez manger un turbo sauce livèche chez lui, allez manger un pigeon sauce homard, merveilleuse cuisson. Les bouteilles sont plutôt abordables, ce qui est bon.
Ah, ça, c'est une bonne
nouvelle. Voilà, c'est une bonne nouvelle. Il y a un grand menu du soir et un seul menu à 96 euros. Alors, ça,
un seul menu,
ça coûte d'accord. un peu, évidemment, ouais. mais on a une farandole et on passe un très bon moment.
Et le cadre est sympa aussi.
Et le cadre est assez sympa, pas trop chargé, assez dépouillé, joli, avec un très bon service. C'est une des tables de la rentrée.
À découvrir ou à redécouvrir. On va direction Rennes, en Bretagne.
Alors, on va à Rennes parce que, pour ceux qui connaissent Nantes, Rennes, c'est pas loin. C'est installé un des deux frères Pérou. Alors, les frères Pérou ont officié pendant très longtemps dans un endroit qui était très bien, qui s'appelait le Manoir de la Régate. Loïc Pérou est resté. Et les deux Pérou se sont donc un peu séparés, puisque l'autre frère, Pascal, vient de monter son restaurant qui s'appelle La Cocotte d'Isidore. Me demandez pas pourquoi, je ne connais pas d'Isidore. Voilà.
Il a une cocotte, c'est
il
sûr.
Il a une cocotte. Ouais. Ça se passe dans un quartier, plutôt nouveau quartier d'affaires en lisière de Rennes. Je crois même que c'est Saint-Jacques-de-la-Lande, exactement le village, enfin le village, la banlieue. Et il a monté donc ce qui est, on peut dire, une table d'affaires façon bistrot. Alors c'est assez marrant, le décor est assez rigolo. On a l'impression que c'est le bar d'un camping. C'est plutôt moderne quand même, très dépouillé aussi, et une cuisine alors hyper nette, hyper fraîche sur le produit, une cuisine qui marie quand même des beaux produits, mais qui est dans l'air du temps. Vous avez par exemple un duo rougé et calamar farci avec un bouillon de crustacés qui est très très bien. Vous comptez à peu près 40 euros à la carte, beaucoup à le midi, c'est souvent des formules plat, entrée plat ou plat dessert. Et pour 40 euros, vous avez une petite cave qui se tient bien, parce que les frères Pérou avaient une excellente cave au Manoir de la Régate, et ils savent s'entourer. Donc voilà, c'est aussi une des belles adresses.
Oui, quoi. David Dubosc.
Et le maître d'hôtel s'appelle-t-il Franck Dubosc ?
Parce que.
J'ai écouté Jean. Non, mais laisse tomber Marc, c'est du cobold.
L'esprit d'escalier de David, de temps en temps, m'échappe un peu.
On va à Aise pour terminer.
Alors, on va
revenir à bon niveau, tiens, on va à Aise. Voilà.
Alors, on s'offre le grand spectacle de la Chèvre d'Or. Magnifique endroit. Je me faisais d'ailleurs la réflexion. Une vue extraordinaire. Alors. Je me faisais d'ailleurs cette réflexion, quand vous allez sur la côte amalfitaine, des endroits comme ça, il y en a, je dirais pas tous les kilomètres, mais il y en a un certain nombre. Sur la Riviera, il n'y en a qu'un seul.
Oui,
la Chèvre d'Or est le seul restaurant complètement perché comme ça, qui a une vue comme totalement plongeante sur la mer. C'est un endroit magnifique. Alors, il y a eu quelques très très grands chefs qui sont passés à la Chèvre d'Or. Et depuis 6 mois, est arrivé en provenance de Chantilly Arnaud Faye. Pour ceux qui lisent Goemio attentivement, et donc tous
tout le monde
qui sont autour de la table, je ne vois pas
pourquoi
David,
écoute l'émission,
David sourit.
Au jeu de pommes.
Arnaud Faye est grande demain l'année dernière au château de Chantilly, à Chantilly, et il est arrivé donc pour également reconquérir en gros ce qui avait été acquis par les prédécesseurs. Il fait une cuisine superbe, vraiment. J'ai trouvé même qu'en 3 mois, il y avait une maturité, quelque chose de brillant, sans ostentation, parce que c'est vrai qu'on a déjà tellement dans le panorama que la suite doit s'accorder. Et il sait choisir à chaque fois la bonne herbe. Par exemple, son homard à l'hysope, c'est une merveille. Vous savez, l'hysope, c'est une plante légèrement...
Enfin,
une belle plante montagnarde qui donne vraiment des arômes très précis, et il met avec un beignet d'épinards qui est très joli, une petite touche de miel. C'était les premiers cèpes, j'ai goûté un cèpe avec un bouillon aubergine, cardamome verte et coriandre, qui était magnifique. Vous voyez, on est dans la
subtilité. Faut nous inviter, c'est un peu comme le Roman et Conti 71, on est là.
Un pagre laqué au miel de Sospel. Les fromages viennent des frères Marchand. Ceux qui connaissent Nancy, les frères Marchand, c'est la référence dans tout l'Est de la France. Il a un très bon pâtissier et il a en plus, c'est presque une attraction, un directeur de salle qui s'appelle Guillaume Mantis, qui est un spectacle à lui tout seul.
C'est vrai ?
Ah oui, il est stupéfiant. Vous savez que j'accorde beaucoup et on accorde beaucoup d'importance à la salle. Guillaume Mantis fait un travail Il est à l'aise avec tout le monde.
C'est un vrai plus pour un restaurant.
Il prend un accent de l'Indiana avec des Américains de l'Indiana. Il prend un accent de Sydney avec des Australiens. Il est splendide, vraiment. Et il est complètement à l'aise sur toutes les tables. Il anime réellement la salle. Et je trouve que c'est très, très important. C'est un showman. Voilà. Et puis, alors, la cave, j'en ai pas parlé. Elle est immense. Elle est immense. Et finalement, pas si cher que ça, parce que vous avez des grands crus intéressants. Et puis des petites bouteilles, il y a par exemple du Saint-Albert. Vous connaissez le domaine Saint-Albert. Oh, je vois, il va falloir que je vous amène une bouteille. Pêcherin de
Vic Bill, non ?
Non, Saint-Albert, c'est Provence. Hein. Enfin, on est en côte de Provence, c'est à la Londe.
Il
fait un blanc très intéressant tous les ans. Il s'appelle Olivier Foucou.
Et voilà. Je pense que c'est la première fois en 619 émissions, vous ne trouvez pas tous les deux là, Fort Bracobold. Hein. Saint-Albert.
Domaine de Saint-Albert.
Il est pas loin, le prince, en plus. Il est
à la Londe.
Mais les Alberts ne s'appellent pas Einstein. Hein.
Au troisième
c'est la preuve qu'il faut écouter 680 fois In Vino BFM. Ah ouais, on apprend toujours quelque chose.
Bon, super, Marc Ascaret. Sinon, côté mot croisé, tout va bien, Marc ?
Tout va bien. Merci.
In Vino BFM, toujours en public et délocalisé chez Nicolas à Paris, place de la Madeleine. Retrouve Manu Perrandet pour son concept chef-d'œuvre héritage. Alors, déjà, c'est quoi chef-d'œuvre et c'est quoi l'héritage?
Ah bien, chef-d'œuvre, c'est ma société. C'est un club d'amateurs et d'acheteurs de vins que j'ai créé en 2011.
Sachant que vous êtes aussi meilleur sommelier de France en 2008. Hein,
et MOF. Voilà. Et c'est à l'issue du concours du MOF que j'ai créé ce club, au départ pour des amis. 40 personnes, maintenant on a 560 amis dans chef-d'œuvre. Et ça permet de faire découvrir...
C'est un peu le Facebook du vin. Là.
Oui, mais c'est un petit peu plus émotionnel que Facebook. On permet aux gens de
recevoir... C'est moins virtuel.
Quoi. Tout à fait. Donc d'abord parce qu'on fait des événements avec les membres, deux par mois, des très belles soirées autour d'accords mets vins et de découvertes de domaines. Et les gens aussi peuvent recevoir à la maison des coups de cœur, deux ou trois bouteilles chaque mois pour les découvrir, avec la possibilité de les racheter. C'est couplé à plusieurs ventes flash et voilà, donc ça permet d'entretenir sa cave et de découvrir au gré de mes voyages eh bien, des coups de cœur.
Alors l'héritage, voilà. Qu'est-ce que c'est que l'héritage?
Eh bien, c'est pas pour les vieux, c'est pour les jeunes.
Bon.
Moi je suis le repapa de deux jeunes enfants et la première question que les membres de chef-d'œuvre m'ont posé lorsque je suis devenu papa, c'est qu'est-ce que vous allez transmettre à votre enfant. Et je leur ai expliqué un petit peu le parcours de dégustation que j'avais prévu pour eux, calqué un peu sur mon modèle, en espérant que ça les emmène très loin dans le plaisir du vin. Et je leur ai grossement déroulé le programme d'héritage. Ils ont dit c'est génial, il faut le faire pour nous. Voilà, donc chef-d'œuvre héritage est le premier service de constitution de cave personnalisée à transmettre à ses enfants, avec un principe qui est très simple. On crée un compte à son enfant. On lui offre des bouteilles en lui laissant un message dans un livre de cave. Chaque bouteille a un message. Donc l'enfant, à la fin, redécouvre sa cave à maturité. Et surtout, toutes les traces des personnes qui lui ont offert ces bouteilles dans le passé. Voilà. Donc c'est à la fois un cadeau émotionnel et aussi un patrimoine, entre guillemets. Et c'est quelque chose que je fais en plus de chef-d'œuvre pour faire vivre des grands domaines, promettre aussi à des grands domaines que leurs vins seront bu à maturité et appréciés par des générations qui se suivent d'amateurs.
Allez, on réagit à cette idée que je trouve personnellement très sympa. Philippe Arbrac.
C'est une très bonne idée. Déjà, cette dimension émotionnelle, ce partage, cette invitation à la découverte, cet héritage, c'est quelque chose qui est la vocation même du vin. C'est le rêve un peu de parents ou qui s'intéressent au vin et qui veulent transmettre. Et je pense d'ailleurs que Manuel a dû leur dire qu'il fallait mettre des magnums, en tout cas des gros flacons.
Des gros formats, des grands millésimes.
Et il y a plein d'occasions ensuite dans sa vie, finalement, de goûter ces grandes bouteilles et savoir qui, pourquoi, quelque part.
Bien sûr.
Laisser un petit message, c'est juste...
Marc Ascaret, c'est sympa.
Enfin, une épargne intelligente.
Il y a des gens qui le font pour ça. Il y a 50 caves depuis et des gens qui l'ont fait pour eux. Pas pour ça, mais pour leurs enfants. Alors,
ouais, non, c'est
peut-être que.
Non, mais c'est vrai que pendant très longtemps.
C'est l'héritage personnel, ça.
Les grands-parents mettaient un peu de sous sur le livret de caisse d'épargne. Je trouve que c'est aussi.
Et Marc, vous voyez le fait de la gastronomie. Il y a des jambons, ben, oui. Des œufs pendant 30 ans. Enfin bon, de quoi tenir pour.
On parle de l'œuf de 100 ans, hein,
oui,
des recettes
oui.
Comme ça. Hein.
David ?
Dernière remarque d'Emmanuel me rappelle ce qu'a fait mon père, parce que lui, il avait aussi une belle cave, mais il a tout bu avant de me le transmettre. Donc, et quelque part, je lui donne raison.
C'est un demi-héritage, quoi.
Oui, j'étais un peu frustré. J'ai trouvé juste le livre de cave.
Oui, c'est ça.
Bon souvenir.
Thierry Vessière, vous en pensez quoi, vous, le chef donc, de la maison de l'Amérique latine à Paris ?
Moi, je trouve que c'est une excellente idée. Rien que quand il en parle, ça donne la chair de poule, cette idée de transmission, de laisser quelque chose par rapport au vin qui a une vraie histoire, qui va puiser au fond de la terre toutes ses saveurs. Les pouvoir les laisser à quelqu'un pour X années après, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment un vrai trésor.
Ouais, très belle idée.
Et vous, ouais. Vous avez, à titre personnel, une belle cave, Thierry ?
Non.
Non.
Je bois tout de suite.
Avec modération, n'oubliez jamais avec modération. Quoi. C'est... Donc vous avez une cave qui est... Hein, pardon ?
J'achète que des vins à boire.
Et Emmanuel, vos derniers coups de cœur, les trois derniers coups de cœur, indépendamment de chef-d'œuvre héritage, qu'on a bien compris, qu'est-ce que vous avez dégusté en cher ou en pas cher, on va dire. Moins de 10 euros, entre 10 et 20 euros et plus 20 euros.
Moins de 10 euros, bluffant le Jurançon Part d'Avant 2015 de Jean-Marc Grussot, absolument incroyable.
Ça, nous sommes en blanc.
En blanc dans le sud-ouest. Franchement, rapport prix, émotion, plaisir et transmission de cette partie de la France en termes de tactile, de saveur et de singularité, c'était incroyable. Ensuite, c'était quoi?
Entre 10 et 20.
Entre 10 et 20, un autre coup de cœur serait... je vous dirais les Mâcon Vieille Vigne, l'Écra d'Olivier Merlin, dans le sud de la Bourgogne.
Donc, toujours en blanc?
En 2014, toujours. Voilà, en blanc, qui sincèrement s'appuie sur un terroir calcaire très actif, qui n'a rien à envier, à mon sens, en termes d'émotion minérale et d'intensité, à un beau terroir de Côte de Beaune.
Et dernier coup de cœur à plus de 2000 euros?
À plus de 2000 euros. Emmené Conti 59. Bu avec Philippe hier soir.
Merci, Benverandé. Il y a un site internet pour.
Chefdœuvrehéritage.com.
Merci Emmanuel Perrandet. David Cabol, le cofondateur de l'Académie du vin de Paris. Alors la semaine dernière, pour ceux qui n'auraient pas écouté, c'est pas bien d'ailleurs, vous étiez il y a un peu plus d'un mois à Bagnoul-sur-Mer.
Oui.
Et vous avez commencé une réflexion sur les fêtes paillardes autour du vin, non?
Oui, paillardes, pas nécessairement que paillardes. Cette très belle fête populaire des vendanges de Bagnoul's dont j'ai parlé assez longuement la semaine dernière, et je n'ai pas pu finir mon exposé puisque la matière est tellement dense. Je me suis mis à rechercher les origines de ces fêtes des vendanges ou les fêtes autour du vin, et j'ai dénommé des fêtes par les Grecs, qui d'ailleurs ça ne se passait pas pendant les vendanges mais bien avant. Ensuite les Romains ont fait des fêtes avant et après la vendange pour ouvrir le banc des vendanges et pour clôturer le banc des vendanges avec des cérémonies avec un axe très religieux. À l'époque c'était Dionysos et pour les Grecs, et puis Bacchus, et ensuite arrive l'ère chrétienne. Alors, qu'est-ce qui se passe avec l'ère chrétienne? Ceux qui n'ont pas été bouffés par les lions dans les arènes à Rome, ils étaient un peu puritains. Hein, on a quelques relents aujourd'hui de ça qui subsistent autour de nous. N'est-ce pas, Alain Marty?
Bien sûr.
Je ne parle pas de vous.
Sûr, j'espère bien.
Alors, les chrétiens ont d'abord réprimé l'alcool et bien sûr réprimé les anciens dieux. Donc, ça ne se passait pas très bien. Et puis, au fur et à mesure, ils se sont rendus compte qu'on pouvait tirer parti de cette substrate de paganisme, et toutes les religions quasiment ont été bâties sur des socles de religions qui les ont précédées. Quelque part, on ne crée pas grand-chose, on recycle des choses en les modifiant toujours un peu. Et ces chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh ben, ils ont fait des processions religieuses au moment des vendanges un peu partout en Europe. Ça s'est passé en Allemagne, en Suisse. D'ailleurs, en Suisse, il y a une subsistance extraordinaire à Vevey encore, mais tous les 20 ans seulement, il y a énorme fête des vendanges.
Tous les 20 ans?
Tous les 20 ans, ouais. Seulement, une fois par génération.
Il ne faut pas la louper, quoi.
Ah non, il ne faut pas la louper. Ça a eu lieu il y a 2-3 ans, la dernière fois. Donc, il faut attendre un peu maintenant.
On va voir. Alors, si je suis bien marqué, c'est... Donc, la prochaine, ça sera dans combien d'années?
Vous en faites deux dans votre vie, quoi.
Alors... cette histoire de baptiser quelque part la récolte, j'ai trouvé l'écho à Bagnoul-sur-Mer le 9 octobre, puisque les vignerons qui avaient déjà fini leur vendange en fait ont gardé quelques colportes de vin dans des frigos et les ont amenés dans des hottes à bord de deux ânes symboles du pays catalan, les ânes noirs, et ensuite ont versé ça dans un pressoir. Un prêtre était là pour bénir la récolte, et ensuite les enfants ont foulé aux pieds ces raisins et on a goûté le premier jus. Cette fête était extrêmement sympathique, et ça me rappelle aussi ce que Yves Legrand fait à Issy-les-Moulineaux depuis quelques années, où c'est des enfants qui vendangent et qui foulent les raisins symboliquement. Dans ce cas-là, il n'y a pas de prêtre, là il vient un prêtre. Et toutes les régions avaient ce genre de choses. En Bourgogne, par exemple, où les meilleurs vins étaient cultivés par les moines, on lisait cette inscription sous tous les celliers, remercions le Seigneur dont la bonté nous a donné le vin. En Franche-Comté, les vignerons portaient solennellement à leur curé les premières raisons de la vigne. Ces cérémonies qui commençaient plutôt pieusement, après se continuaient d'une manière beaucoup plus profane, avec des danses sur la place des villages, le vin coulant à flot, la chanson à boire.
C'était il y a très longtemps, bien évidemment.
Oui, quelque part, cet esprit se poursuit. Alors, le culte de Bacchus, plus surprenant, il y avait un culte de Bacchus dans la région parisienne. Philippe Forbach, qui est un spécialiste des vins de Suresnes, pouvait un peu en témoigner. Car on a un témoignage qui date de 1703, où au temps de la vendange, on mettait sur une table ou dans les pressoirs une statue de Bacchus assis sur un tonneau, et tous ceux qui entraient dans le pressoir le jour de Saint-Denis étaient obligés de faire génuflexion devant cette figure. Donc voilà, quelque part, c'est le paganisme qui ressort. Dans beaucoup de régions viticoles en France, on fêtait la fin des vendanges par toutes sortes de cortèges et de réjouissances. J'ai déjà cité Vevey qui continue, mais on a des fêtes analogues en Allemagne. Et puis, bien sûr, à Vevey, ce qui est intéressant, c'est qu'on fête toutes les strates, parce que Cérès et Pallès, Bacchus et Silène, des faunes et des bacchantes, font partie de cette énorme fête.
Ils ne font pas souvent, mais quand ils le font,
c'est... Ils le font comme il faut. Et j'ai vu effectivement à Banyuls, où la fête est annuelle, et qui a lieu depuis 20 ans, parmi cette foule extrêmement colorée que j'ai décrite la semaine dernière, beaucoup de gens qui pouvaient bien être des faunes ou des bacchantes.
Juste, j'ai cherché finalement la prochaine date pour donner à nos amis. Donc, c'est dans pas longtemps finalement, puisque la dernière fête à Vevey a eu lieu en 1999, c'est en 2019.
Ah oui,
trois ans.
Retenez-vous
pas.
Vous allez
pouvoir, parce que là, c'est, pour les gens qui s'intéressent au vin, c'est peut-être le
ça
moment
peut être très sympa, quoi.
Presque de prendre position. Parce
Marc Esquiré, on a la même chose côté gastronomie, des fêtes, parce que non, là, on célèbre le vin, on ne célèbre pas le saucisson, le je sais pas quoi, non ?
Alors, il y a des fêtes de terroir, mais il n'y a pas du tout l'équivalent de ces grandes fêtes viticoles. Je pense que c'est dû à l'universalité du vin, alors que l'universalité des terroirs est évidemment.
Même pour les fromages, par exemple, Marc, il n'y a pas de grande fête du fromage ou...
Non, et puis chaque région est tellement, fière de ce qu'elle produit qu'elle a du mal en général à étendre le prosélytisme aux autres régions.
Il y a bien sûr des fêtes du vin à d'autres périodes, parce qu'on pense aux fêtes tournantes en Bourgogne qui sont annuelles, mais qui se passent plutôt en hiver. C'est plutôt la tradition grecque. Puisque
c'est plus fédérateur d'une manière générale, les fêtes autour du vin.
Manuel Perrandet, vous avez fréquenté déjà, vous êtes très sollicité pour y aller, mais est-ce que vous y allez dans ce genre de manifestation populaire et sympa,
à
David,
la Saint-Vincent, hein. Et j'ai aussi passé un merveilleux moment à la fête des vins de Banyuls sur la plage.
C'est formidable.
Où en fait, on avait quasiment plus envie de
partir.
C'était
quand ça
Alors c'était il y a quelques années, 5-7 ans je pense, et j'étais avec une bande de sommeliers, on était sur la plage, on avait du Banyuls de Paillet de la cave de l'Étoile qui débordait du verre.
Avec modération toujours.
Bien sûr, et c'était un moment de partage absolument extraordinaire qui m'a toujours donné envie d'y retourner.
Et puis vous, Philippe Forbach, vous êtes tout le temps invité partout, vous, mais... meilleur souvenir de fête populaire, alors oublions Banyuls, parce que ça on a compris que c'est la meilleure fête du monde, mais le numéro 2 par exemple, la médaille d'argent.
J'ai eu la chance en tant que sommelier de présider la fameuse Saint-Vincent tournante Bourguignonne. Ouais. C'était en 1997, dans la froideur du mois de janvier.
Ce qui fait très froid, quand même.
J'ai pris le train ici à la gare de Lyon et j'ai entendu déjà sur le quai chanter au départ. Et j'ai entendu chanter pendant tout le week-end. Les gens arrivaient de toute l'Europe, notamment les Belges, les Luxembourgeois qui débarquaient à Paris ce jour-là. Et finalement, c'est ce maillon d'enthousiasme populaire qui m'a marqué ce jour-là encore plus.
Merci à tous. Fin de ce numéro 619 d'Invino BFM. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site de BFM Business. On se retrouve en public et délocalisé au restaurant Bar à Vin Nicolas à Paris, place de la Madeleine, samedi à 13h et dimanche à 15h. D'ici là, bonne suite au week-end sur BFM Business et surtout, n'oubliez jamais, respectez la plus grande démodération.